La parole des contes avec Anne Wong.
Chères auditrices et chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans notre émission. Les émissions précédentes parlaient d'oiseaux et étaient sur des contes très violents, très terribles. Alors, cette fois-ci, je nous emmène dans un autre univers, l'univers du partage, de l'amour, de la douceur, de la tendresse, de la beauté. Et nous aurons encore des oiseaux pour le premier conte. Et donc, ces deux contes sont issus d'un recueil de contes très merveilleux du monde entier, écrit par Praline Guépara, que je vous recommande. C'est une conteuse exemplaire, truculente. Elle a un petit accent parce qu'elle vient d'une autre région que la nôtre et ça lui donne un grand charme. Et ses contes sont tendres, elle tisse la parole d'une façon exemplaire. Et là, dans ces contes merveilleux des quatre coins du monde, je nous ai choisi deux contes kazakhs. L'intérêt des contes, c'est justement d'entrer dans une autre culture, la culture de l'autre. Et les Kazakhs sont une peuplade ou un peuple qui a découvert l'écriture très tardivement, au XVIIIe, XIXe siècle. C'est un peuple nomade qui avait d'abord connu le sédentarisme et d'après certains, à cause d'un revirement climatique, ils ont été obligés de quitter leur sédentarisme pour retrouver le nomadisme. Donc vous connaissez la beauté de leur yourte, de leur tapis. Et ils vivent dans des grandes étendues de steppes, souvent arides, d'où le rêve d'y mettre un jardin merveilleux, comme vous allez voir. Et place à la musique pour nous emmener au pays des Kazakhs. Hassan et Hassan étaient deux amis inséparables. Ils travaillaient dur pour gagner leur vie. Le premier était paysan. Le deuxième, Hassan, berger. Mais hormis ça, ils avaient tout en commun. Ils avaient grandi ensemble, s'étaient mariés la même année, avaient perdu leur femme à quelques semaines d'écart. Seule lumière au tableau, leurs enfants. Hassan, le paysan, avait une fille belle et aimante, et Hassan, le berger, un fils vaillant et aimable. Un matin, au début du printemps, Hassan trouve tous ses moutons morts. Son troupeau est décimé par une étrange maladie. Pas une seule bête debout. En larmes, il va voir son ami. « Je suis venu te faire mes adieux. J'ai perdu mon troupeau. Je dois partir chercher du travail ailleurs. » Hassan, le paysan, est bouleversé. Il serre son ami dans ses bras en pleurant. « Hassan, mon frère, depuis que je suis né, la moitié de mon cœur est à toi. Tu ne peux pas refuser la moitié de ma terre. Sèche tes larmes. Prends la houe et viens labourer avec moi. À partir d'aujourd'hui, la moitié de ma terre est à toi. » Hassan le berger est devenu paysan ce jour-là. Un jour, Hassan, le berger en train de bêcher son lopin de terre, sa houe heurte un objet métallique. Il creuse fiévreusement et découvre une vieille marmite trouillée. Il la déterre et l'ouvre. Alors, chère auditrice, cher auditeur, qu'est-ce qu'il y a dans la marmite trouillée? Je crois que tu as deviné. Elle est remplie de pièces d'or. Fou de joie, il emporte le trésor et se précipite chez son ami. « Réjouis-toi, mon ami, c'est ton jour de chance. J'ai trouvé une marmite remplie d'or dans ton champ. Tu ne seras plus jamais pauvre. » Donc l'ami sourit, « Tu es généreux, je sais. Mais cet or t'appartient. Tu l'as trouvé dans ton lopin de terre. « Oh, je connais ta générosité quand tu m'as donné la moitié de ta terre. Tu ne m'as pas donné ce qui était enterré. » Mon ami, les richesses appartiennent à celui qui arrose la terre de sa sueur. Cet or est tien, tu l'as trouvé dans ton champ. Les deux amis se disputent longtemps. Chacun veut donner la marmite d'or à l'autre. Finalement, Hassan le paysan tranche. Arrêtons de nous quereller. Tu as un fils, j'ai une fille. Ils s'aiment depuis qu'ils sont tout petits. Marions-les. Et donnons-leur cet or. Ils oublieront les affres de la pauvreté et ils démarreront d'une autre façon que nous dans la vie. Les deux amis vont trouver les jeunes gens et leur font part de leur décision. Ceux-ci sont au comble du bonheur. La noce est célébrée dans la joie le jour même. Les jeunes mariés s'installent dans la maison de Hassan le berger qui, lui, déménage chez son ami, le paysan, agriculteur, cultivateur. Le lendemain à l'aube, les deux jeunes gens vont poser la marmite d'or devant la porte de leur père et appellent. « Cette marmite vous revient de droit. Notre amour est notre trésor le plus précieux et nous n'avons pas besoin de cet or. Il est à vous. » Vous en aurez besoin pour vos vieux jours. » Hassan et Hassan reprennent leur querelle où ils l'avaient laissée. Ils se disputent devant leurs enfants, ébahis. « Ce trésor est à toi. Non, il est à toi. Non, c'est à toi. Non, non, à toi. C'est ta terre. Non, c'est la tienne. » Au bout d'interminables heures de dispute, ils sont épuisés et il faut trouver une solution. Ils vont tous les quatre demander conseil à un vieux sage. Ils prennent la route et portent tour à tour la marmite d'or. Ils marchent longtemps, longtemps, longtemps et arrivent enfin devant la hutte du sage, un abri au beau milieu de la steppe. Les voyageurs épuisés sont accueillis par un vieillard assis sur une couverture en feutre usé, il est entouré de quatre disciples. Qu'est-ce qui vous amène jusqu'ici, braves gens? Les visiteurs lui racontent leur querelle, la marmite, l'or et tout le reste. Quand ils ont terminé, le vieux sage garde longuement le silence. Puis il se tourne vers le plus âgé de ses disciples, s'adresse à lui. « Dis-moi, mon fils, comment aurais-tu résolu ce problème ?» L'aîné des disciples répond. « J'aurais demandé que cet or soit donné au Khan, car tous les trésors trouvés dans la terre lui appartiennent de droit. » Le visage du vieux sage se renfrogne. Il s'adresse alors à son deuxième disciple. « Et toi, comment aurais-tu tranché cette affaire ?»«
Ah, si j'étais toi, j'aurais gardé l'or pour moi. Pourquoi refuser un cadeau qui te tombe du ciel ?» Là, le vieux sage lui lance un regard noir, sans dire un mot, et se tourne vers le troisième disciple. « Et toi ?»«
Moi, » répond celui-ci, « je dis que si c'est tort, n'appartient à personne, et si personne n'en veut, eh ben il faut le remettre là où il était. Il faut l'enterrer à nouveau dans le champ. »
Le vieillard fronce les sourcils, s'adresse enfin au plus jeune de ses disciples. « Et toi, qu'en penses-tu, mon fils ?»«
Maître, » répond le plus jeune, « pardonne ma simplicité, mais avec cet or, j'aurais acheté des graines et j'aurais semé dans la partie la plus aride de la steppe. Un immense jardin ombrageux où tous les pauvres pourraient trouver refuge à l'abri du soleil et se nourrir de fruits frais. »
À ces mots, le vieux sage se lève, les yeux remplis de larmes, et serre le jeune homme dans ses bras. Et le proverbe n'a pas menti. Quand il a dit « il faut considérer le plus jeune comme s'il était le plus âgé quand il est sage. » Ta décision est juste, mon fils. Prends cet or et va à la capitale. Tu achèteras les meilleures graines et à ton retour, tu sèmeras le jardin de tes rêves. Que ton souvenir et celui de ces hommes généreux vivent à jamais dans la mémoire des pauvres gens. Le jeune disciple met l'or dans un sac qu'il passe par-dessus son épaule et se met en route. Il marche des jours et des jours dans la steppe, le cœur léger et joyeux, et finit par arriver à la capitale où vit le khan. Il se dirige vers le bazar et se met à la recherche du meilleur marchand de graines. Il se perd dans les ruelles de la grande ville. Il est fasciné par la quantité de marchandises exposées sur les étals. Soudain, il entend tinter des clochettes. Il se retourne et voit une immense caravane avec un chargement étrange. Au-dessus des chameaux flotte un nuage de plumes multicolores et sur les flancs des chameaux, des milliers d'oiseaux attachés au sel par les pattes et ils se débattent, des oiseaux, des montagnes, des oiseaux, des forêts, des steppes et des déserts. Ils tentent tous de se libérer de leurs entraves. Leurs ailes déplumées pendent pitoyablement, leurs têtes heurtent violemment les flancs des bêtes. Les oiseaux poussent des cris stridents qui fendraient une pierre en deux. La colère submerge le jeune homme. Il se fraye un passage à travers la foule de curieux, se dirige vers le chef de la caravane et hurle. « Qui a osé condamner ces oiseaux à un tel supplice ? Où les emmènes-tu comme cela ?»«
Nous allons au palais du khan, » répond le chef de la caravane. « Ces oiseaux sont destinés à ses cuisines. Il nous en payera 500 pièces d'or. »
Et si je t'en offre le double, accepteras-tu de les libérer ? »
Sans attendre de réponse, il pose le sac d'or par terre, l'ouvre, et sous le regard ébahi du caravanier, qui n'en croit pas ses yeux, le jeune disciple compte les pièces parce que jusqu'à présent, nul ne les avait comptées, et il y en a 1000, très exactement 1000. Il les donne au caravanier. Celui-ci ordonne immédiatement à ses hommes de détacher les oiseaux à moitié morts. À peine libres, tous les oiseaux prennent leur envol. Ils sont si nombreux qu'en un seul instant, le ciel s'obscurcit, passant du jour à la nuit. Ils sont si nombreux que le seul battement de leurs ailes provoque un ouragan. Le jeune homme les suit du regard aussi longtemps qu'il le peut. Quand ils ont complètement disparu, il ramasse son sac, vide, et prend le chemin du retour.
Il avance d'un pas joyeux, le cœur léger. Il marche des heures et des heures. Et plus il se rapproche de la hutte du vieux sage, plus son cœur s'alourdit. Il est bientôt rongé par le remords. Ah, j'ai dépensé de l'or qui ne m'appartenait pas, juste pour une lubie. J'avais promis de faire pousser un jardin pour les miséreux. Comment expliquer mon geste à mon maître et aux braves gens qui attendent les graines? Plus il marche et plus le désespoir le gagne. Il se met à pleurer. Épuisé par le chagrin, il finit par s'arrêter. Il pleure. Il pleure. Il pleure tant et tant qu'il s'endort. Jeune homme au cœur si bon, oublie ton chagrin. Les oiseaux que tu as libérés viennent te remercier ce matin. Ouvre les yeux et regarde, regarde autour de toi. Ce que tu verras te réjouira. Réveille-toi! Et l'oiseau prend son envol. Le jeune homme se réveille et regarde autour de lui. Un spectacle inimaginable s'offre à lui. Il pense qu'il rêve, il se frotte les yeux. La steppe immense n'est plus qu'une nuée multicolore d'oiseaux affairés. De leurs griffes, ils tracent des sillons dans la terre. Du bout de leur bec, ils sèment des graines qu'ils recouvrent en balayant la terre de leurs ailes. Quand le jeune disciple se lève, les oiseaux prennent leur envol et regagnent le ciel. Le jour devient nuit et le battement de leurs ailes provoque un ouragan. Quand ils ont disparu, le jeune homme voit chaque graine plantée, germer, pour donner une pousse qui en un clin d'œil devient un arbre immense, avec un feuillage luxuriant et des fleurs épanouies. Il voit abasourdi chaque fleur laisser la place à une pomme d'or. Des vignes chargées de grappes juteuses enlacent les troncs couleur d'ambre, des pommiers, des prés verdoyants et ensoleillés s'étalent à perte de vue. Des sentiers ombragés traversent le jardin, des rigoles d'eau claire, pavées de pierres précieuses serpentent entre les arbres. Dans les branches, des milliers d'oiseaux font leur nid et chantent à tue-tête. Même le padishadin n'aurait pas osé rêver un jardin aussi merveilleux. Pour vérifier qu'il est bien réveillé, le jeune homme se pince violemment la joue, pousse un cri, et l'écho reprend son cri, reprend son cri, reprend son cri, reprend son cri à l'infini, à l'infini. Et le jardin est toujours là, rempli de promesses. Le jeune disciple rit et saute de joie. Il se sent pousser des ailes. Il prend ses jambes à son cou et court comme une flèche tirée par un archer habile pour aller porter la bonne nouvelle à son maître. Quand ils ont écouté son histoire, le vieux sage, les trois disciples, Hassan et Hassan, et les jeunes mariés, tous ont hâte de voir le prodige. Le jeune homme les guide jusqu'au jardin et ils arrivent. Ils admirent et savourent un avant-goût du paradis. On raconte qu'en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, la nouvelle du jardin merveilleux a fait trois fois le tour des steppes d'Asie. On raconte
que les nobles et les puissants sont arrivés les premiers sur leurs chevaux rapides comme le vent. On dit que chaque fois que l'un d'eux a tenté de cueillir une pomme d'or, les branches se sont dérobées, laissant les mains avides, vides. On raconte que l'un d'eux a réussi, au risque de sa vie, à cueillir une pomme en s'accrochant aux branches qui se soulevaient. On dit que quand il a porté le fruit à sa bouche, il en est mort, foudroyé. On dit que quand ils ont voulu boire, l'eau des rigoles les a empoisonnés. Voilà pourquoi on n'a plus revu dans le jardin un seul cavalier fortuné. La légende affirme que beaucoup plus tard, les gueux, les pauvres et les mendiants sont arrivés, à pied, des jeunes, des vieux, des familles, des solitaires, des gens du pays, des étrangers. Pour eux, les branches se sont baissées pour offrir les fruits qu'elles portaient. Les visiteurs se sont installés à l'ombre des arbres, ont bu l'eau claire des rigoles et se sont rassasiés. Ils ont respiré le parfum des fleurs et écouté le chant des oiseaux. On dit que, quand la nuit est tombée, les arbres ont pris une teinte bleutée, les étoiles ont brillé, et enfin, tranquille, les visiteurs se sont endormis à l'abri de la faim et des soucis pour la première fois de leur vie. Le jardin merveilleux existe quelque part encore aujourd'hui. Puissent vos pas vous y mener un jour. Deuxième conte que je vous propose, en fait, c'est le premier conte du recueil. Praline Guépara l'a mis en introduction et moi, je vous le propose en conclusion. Vous êtes prêts? Ça se passe donc un jour de joie au campement. C'est un mariage. Depuis une semaine, petits et grands s'affairent pour préparer les noces de la fille aînée du chef. Le fiancé vient d'arriver en grande pompe au campement, accompagné de tous ses amis. La fiancée est parée de ses plus beaux atours. Le mariage est célébré dans la journée et le festin dure jusqu'au coucher du soleil. Et à la tombée de la nuit, là où les contes peuvent se dire, tous les convives se réunissent dans la yourte du chef et voici venu le moment où, comme le veut la tradition chez les Kazakhs, chacun doit raconter une histoire. Les jeunes mariés sont assis côte à côte, entourés de la famille de la jeune femme et des amis. Chacun, à son tour, raconte une histoire. Le jeune marié, il n'écoute pas. Il a hâte d'être tout seul avec sa belle, afin d'en profiter, de profiter de la douceur de la nuit. Quand arrive son tour, il balbutie, il s'excuse. Et dit « Je ne connais pas d'histoire ». L'assemblée est étonnée et les parents de la mariée sont mécontents. Chacun se lève pour aller se coucher, déçu de voir la soirée écourtée. Seul le jeune marié est content. Il s'en va avec sa bien-aimée vers la yourte nuptiale. La petite sœur de la mariée, qui a tout juste 7 ans, ne veut pas aller dormir. Elle sait que son beau-frère est un conteur réputé et elle se demande pourquoi
Il réserve ses comptes à sa fiancée.
Elle se glisse dehors dans la nuit et entend les nouveaux époux chuchoter et rire. Elle s'approche de leur youtre sur la pointe des pieds dans l'espoir d'entendre au moins un conte quand elle voit deux ombres se faufiler dans l'obscurité. Elle se cache et tend l'oreille. La première ombre murmure.
Du même matin, le nouveau marié va partir avec ses amis et sa femme vers son campement.
Sur son chemin, je me transformerai en ruisseau brûlant. Quand il s'approchera de moi pour se désaltérer, je le transformerai en punaise.
Il a refusé de raconter le conte de la punaise qu'il connaît depuis qu'il est tout petit.
Et si tu ne réussis pas, toi, à le transformer en punaise, susurre la deuxième ombre, je prendrai moi la forme d'un poignard en or, et je me mettrai au milieu de son chemin. Quand il me ramassera, je lui couperai un doigt et le transformerai en couteau. Il connaît le conte du poignard depuis des années et il a osé dire qu'il n'a rien à raconter.
La petite fille voit alors les deux silhouettes disparaître dans la nuit. Elle comprend qu'elle vient de croiser l'esprit du conte de la punaise et l'esprit du conte du poignard. Elle sait que les deux projettent de se venger de son beau-frère, car il a gardé les deux contes pour lui. Le lendemain, vers midi, le trousseau de la mariée est chargé sur les chameaux et la caravane est prête à s'ébranler pour aller vers le campement de la famille du marié. La petite sœur de la mariée arrive sur le cheval le plus rapide de son père et demande au jeune couple si elle peut les accompagner. Le marié refuse.
Nous n'allons pas nous occuper d'une enfant pendant le voyage. La route est longue et le soleil est chaud.
La petite insiste et le marié est inflexible. La fillette finit par faire mine d'obéir. Elle s'éloigne, les observe de loin, prête à partir. La caravane prend la route et la petite têtue suit le cortège à bonne distance, sans rien demander à personne. Le marié, qui ne l'a pas perdu de vue, marmonne «
Quelle peste celle-là, quelle peste !» Mais il ne dit rien, il ne veut pas se disputer avec sa femme le premier jour.
La route est longue. La caravane voyage depuis de longues, longues heures. Le soleil est haut. Il fait très chaud. Les bêtes avancent péniblement. Les voyageurs ont soif. Tous cherchent du regard une source d'eau. Le marié part en éclaireur pour tenter de trouver un puits ou un rue. Il aperçoit au loin un petit ruisseau. Il met pied à terre et se baisse pour vérifier si l'eau est potable avant d'appeler ses compagnons. La petite l'observe de loin. Quand elle le voit descendre du cheval, elle part au galop.
Son cheval plonge ses sabots dans l'eau, piétine tant et si bien que le ruisseau n'est plus que boue. Le marié est furieux. Le cortège rouspète. Le jeune marié la gronde violemment.
Elle fait mine de ne pas l'entendre. La caravane poursuit sa route. Et les voyageurs sont au bord de l'épuisement. La journée tire à sa fin quand le marié voit un objet briller sur son chemin. Il regarde de plus près. Un couteau en or. Il met pied à terre pour le ramasser. Et vous savez, cher auditeur, qu'est-ce qui va se passer
La petite sœur éperonne son cheval qui se lance comme une flèche jusqu'au couteau et se met à le piétiner, le réduisant en morceaux sous ses sabots. Le marié est furieux. Il hurle à l'encontre de sa petite belle-sœur des menaces terribles. Elle fait celle qui n'entend rien. Elle rit aux éclats. À la tombée de la nuit, le cortège nuptial fait son entrée dans le campement du jeune marié. Celui-ci se précipite vers la petite et la menace de la punir si elle ne reste pas tranquille. Il lui promet toutes sortes de corvées si elle se mêle une seule fois de ses affaires. Elle rit. « Oh, tu n'es pas beau quand tu es furieux.
Calme-toi et je te raconterai ce qui s'est passé pendant le voyage. » C'est ainsi que la petite sœur a raconté aux grands et aussi aux petits ce que nous savons déjà. Comme elle venait de sauver la vie de son beau-frère, elle a eu droit à toutes les faveurs. Elle a été gâtée pendant des semaines entières. On dit que le jeune marié ne lui a plus jamais fait de reproches et que depuis ce jour, il n'a plus jamais refusé de raconter un conte. Et depuis ce temps-là, on dit là-bas, celui qui connaît un conte ne doit pas le garder. Et vous, chers auditeurs, chères auditrices, qui, en écoutant des contes, vous en connaissez, ne les gardez pas pour vous. Racontez-les, racontez-les, racontez-les encore et encore. Ils ne demandent que ça.
Жаным жаңғырған әнім Каспидің толқын тауларын Сен бізің көгілдір махаббатым Ал қызым алаулы таңдарым Айдының шалқыған бір
Oui, chers auditeurs, chères auditrices, merci de nous écouter. Et je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine, car ça en vaut la peine.
Күлімдеген жанарыңда дүрілдеген Мен сені балықшыңның арманынан Жан сәулем іздеймін аңсаумен Арманым саған ауған самал соқса жағалаудан